VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou en direct de Washington pour vous présenter cette édition de 18h30 en temps universel du mercredi 17 janvier 2018. À la une ce soir, les fonctionnaires béninois en grève. Ils réclament l'abrogation d'une loi supprimant le droit de grève dans plusieurs secteurs. En Éthiopie, libération programmée de plus de 500 prisonniers. En France, la France et le Royaume-Uni sont sur le point de ficeler un nouvel accord pour mieux gérer les migrants. La Corée du Sud et la Corée du Nord prêtent à former une seule équipe féminine de hockey sur glace aux Jeux Olympiques d'hiver. Dans 10 minutes, ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Les fonctionnaires béninois observent une grève très suivie à l'appel de 7 centrales syndicales. Ils demandent l'abrogation d'une loi supprimant le droit de grève dans plusieurs secteurs, dont la justice et la santé. Les précisions avec Dili Dico.
La grève générale entamée hier mardi doit se poursuivre jusqu'à demain jeudi. La plupart des tribunaux et établissements scolaires de Cotonou étaient déserts aujourd'hui. Le mouvement était plus diversement suivi par les centres de santé. Dans les administrations et les institutions judiciaires, le gouvernement a procédé à des réquisitions pour forcer les agents à venir travailler. Certains ministères ont publié la liste des réquisitionnés dans la presse. Le Parlement béninois a voté le 28 décembre 2017 une loi interdisant le droit de grève aux militaires, gendarmes, policiers, personnels de santé et de la justice. La Cour constitutionnelle n'a pas encore validé cette loi qualifiée de liberticide par Kakpo Bessé, responsable d'un syndicat judiciaire. Ces derniers mois, le Bénin a connu une série de mouvements sociaux pour protester contre la politique économique du président Patrice Talon, qui a défendu cette loi en évoquant des choix difficiles mais nécessaires au redressement du pays.
Deux fonctionnaires nigérians sont accusés d'avoir détourné la quasi-totalité des fonds destinés à l'organisation de la Journée internationale contre la corruption. Il s'agit d'environ 10 000 euros alloués à la célébration de la journée organisée le 9 décembre 2014. Les États-Unis ont condamné les meurtres en deux jours de deux soldats camerounais dans les zones anglophones, tout en appelant le gouvernement camerounais à faire preuve de retenue face à ces actes de violence imputés par les autorités aux séparatistes anglophones. Le président du Ghana a promis une vigilance accrue pour prévenir d'éventuelles menaces terroristes après l'ouverture d'une enquête concernant la découverte d'explosifs à Accra, la capitale. Trois hommes avaient été arrêtés en possession de grenades en début de semaine dans le quartier Odokport. J'ai l'impression que l'État n'existe pas, déclaration du révérend David Okofo à l'occasion du 17e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila devant la femme de l'actuel président et les plus hautes instances de l'État. L'opposition et la majorité commentaient ce mercredi les nombreux propos jugés critiques envers la gestion de la République démocratique du Congo tenue hier par ce responsable religieux protestant. Les Nations Unies ont lancé aujourd'hui un appel de fonds de plus d'$1 milliard pour une aide humanitaire en faveur de la République démocratique du Congo, où la situation atteint un point de rupture. Si nous n'obtenons pas une telle somme, des gens vont mourir, a déclaré Jean-Philippe Chosy, représentant de l'Agence de l'ONU pour les migrants, lors d'une conférence de presse à Genève. Ce jeudi 17 janvier est aussi, pour les Congolais, le 50e anniversaire de la mort du Premier ministre Patrice Lumumba, assassiné en 1961 à Kinshasa. Chaque année, une frange de la population dépose des gerbes de fleurs devant la stèle de Lumumba dans la commune de Limité. Au Congo-Brazzaville, les travaux de la commission de suivi de l'accord de paix signé le 23 décembre à Kinkala sont sur le point de débuter. Une première réunion de prise de contact est prévue ce mercredi entre les autorités et les représentants du pasteur Ntumi, principal protagoniste de la rébellion. Armée depuis 2016. Ils espèrent déboucher sur la rédaction d'une feuille de route. Au Soudan, une nouvelle manifestation contre la hausse des prix a été dispersée pour la deuxième journée consécutive. La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène. Les autorités ont procédé à l'interpellation du secrétaire général du Parti communiste. En Éthiopie, l'un des premiers opposants, Merera Gudina, a été libéré de prison. Aujourd'hui, il a bénéficié d'une amnistie décidée par le gouvernement, tout comme 500 autres personnes. Le point avec Yakuba Ouadréogo.
Merera Goudina, président du Congrès fédéraliste Oromo, est le premier responsable de l'opposition à être relâché après la promesse gouvernementale de libérer les prisonniers politiques. Ce sera une bonne chose si le gouvernement conduit des négociations honnêtes avec les forces politiques pour créer une Éthiopie démocratique qui garantisse l'équité entre tous, a déclaré M. Herrera à sa sortie de prison. Il avait été appréhendé en 2016 après avoir dénoncé devant les parlementaires européens à Bruxelles l'état d'urgence instauré dans la région Oromo. Il avait alors été inculpé d'incitation aux émeutes et accusé d'avoir préparé un coup d'État. Lundi, le gouvernement a annoncé que 528 individus vont être libérés avec abandon des poursuites contre eux. Ils étaient pour la plupart accusés d'implication dans des violences entre les Oromo et les Somalis. 115 prisonniers ont retrouvé la liberté aujourd'hui, d'après la radio-télévision d'État. En 2015, la répression des manifestations a fait au moins 940 morts, d'après la Commission éthiopienne des droits de l'homme.
Emmanuel Macron et Theresa May signeront jeudi un nouveau traité pour mieux gérer les migrants voulant rallier le Royaume-Uni depuis la France. Ce sera lors d'un sommet bilatéral près de Londres pour discuter des relations entre les deux pays malgré le Brexit. Abdourahmane Dia.
Selon Paris, Emmanuel Macron et Theresa May signeront un nouveau traité qui complétera les accords du Touquet en vigueur depuis 2004, mais qui n'a jamais réussi à juguler l'afflux de migrants depuis Calais. Cette ville subit depuis des années les effets de la présence de nombreux clandestins voulant franchir la Manche. Le nouveau traité portera principalement sur les mineurs non accompagnés, les demandes d'asile et le regroupement familial. Jusqu'à 8000 migrants ont campé dans cette ville, mais après le démantèlement fin 2016 du bidonville surnommé la Jungle, la situation s'est un peu améliorée. Selon les autorités françaises, entre 350 et 500 migrants sont encore dans le port pour tenter de rejoindre la Grande-Bretagne. Le sommet franco-britannique abordera aussi la coopération dans la défense et le renseignement, une manière de montrer que malgré la sortie prochaine de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, les relations entre Paris et Londres restent cruciales.
Une collaboration sans précédent, la Corée du Sud et la Corée du Nord sont d'accord pour former une seule équipe féminine de hockey sur glace et défiler ensemble sous une bannière favorable à leur réunification lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver. Le point avec Saloua Jafari.
Des décisions qui ont été prises par les responsables de chaque pays lors d'une réunion tenue à Panmunjom, village frontalier où a été signé le cessez-le-feu entre les deux Corées. Signe d'un relatif apaisement dans la péninsule, les Nord-Coréens ne veulent pas se contenter d'envoyer des sportifs aux Jeux Olympiques d'hiver qui s'ouvriront le 9 février à Pyeongchang. Le voisin du Nord souhaite également dépêcher, outre des hauts responsables, et des artistes, les fameuses Pom Pom Girls, plus de 200 membres de cette armée de beauté, comme elles sont surnommées en Corée du Nord. Séoul a longtemps cherché à proclamer l'événement comme un Olympiade de la paix face aux tensions des programmes d'armement de Pyongyang. Le délégué en chef du Nord, Yong Yong-sum, a lui déclaré:
depuis 2008, les relations nord-sud sont pratiquement rompues et l'état d'affrontement persiste depuis près de 10 ans. Et je crois que plus le temps passe, plus nos populations espèrent améliorer les relations nord-sud.
Plusieurs églises catholiques ont été attaquées avec des engins incendiaires dans la région de Temuco, dans le sud du Chili, avant la visite du pape François dans cette ville. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Afrique importe 70% de ses médicaments. Alors qu'elle représente 13% de la population mondiale, sa production pharmaceutique est seulement de 3% du marché mondial. Le marché africain alimenté de médicaments contrefaits entraîne 24% de la mortalité. Les médicaments vendus en Afrique subsaharienne sont souvent les plus chers au monde. La Côte d'Ivoire devrait enregistrer un léger recul de sa croissance en 2020 et l'inflation devrait atteindre 1,6%. D'après le FMI, le déclin de la productivité et la répartition inégale des fruits de la croissance sont à l'origine de cette situation. Le taux de pauvreté dans le pays reste élevé. L'Iran appelle les pays musulmans à être davantage solidaires et à ne pas dépendre des étrangers pour leur développement et dépasser les problèmes du monde islamique. Le président iranien Hassan Rouhani a toutefois nuancé qu'il n'appelle pas à l'isolement de l'Organisation de la coopération islamique. Il dit plutôt soutenir une interaction constructive entre pays égaux qui ne laisse aucune place à l'exploitation, au colonialisme et à l'ingérence.
Place au sport à présent avec Nicolas Pignot. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ikea, bonsoir à tous.
Le Maroc empoche une deuxième victoire cet après-midi du CHAN 2018.
Face aux Séries Nationales de Guinée, battues lors du premier match évidemment, les Lions de l'Atlas ont pu compter sur leur public au stade Mohamed V et une victoire 3-1. Ayoub El Kaabi avait ouvert le score à la 27e pour les Marocains. Saïdou Babi Siri Camara égalise dans la foulée pour le Séries Nationales et en deuxième mi-temps, El Kaabi encore lui a inscrit deux nouveaux buts. À suivre à 19h30, temps universel, la Mauritanie fera face au Soudan et le sélectionneur des Mourabitoun, Corentin Martins, espère que son équipe montrera un autre visage.
J'espère que contre le Soudan, on saura répondre présent au-delà de penser aux résultats. C'est surtout dans l'attitude et dans la prise d'initiative qui est importante pour espérer quelque chose. En tout cas, le football reste toujours un jeu et il faut prendre du plaisir. Et là, je pense que les joueurs n'en ont pas pris beaucoup samedi. Et j'espère que ce sera différent mercredi et qu'on montrera un autre visage.
Corentin Martins, sélectionneur de la Mauritanie. Toutes les infos sur le CHAN 2018 à retrouver sur notre site internet voaafrique.com et notre page Facebook.
Et le Congo a pris hier la tête du groupe D.
Oui, le Congo qui n'a pas démontré grand-chose face au Cameroun, il faut le dire. Eh bien, les Diables Rouges ont remporté leur premier match du CHAN 2018 grâce à un pénalty signé Junior Makessé, l'attaquant de Léopard de Dolizy. Le Congo-Brazzaville est donc premier du groupe D devant Burkinabé et Angolais. Les deux pays n'ont pas pu se départager hier. 0-0 à Agadir malgré une large possession de balle des étalons du Faso. On écoute le capitaine des étalons locaux, Baba Youré Sawadogo.
On est tombé sur une grosse équipe de l'Angola ce soir. Ils nous ont dominé un peu tactiquement. La stratégie du coach aussi était d'attendre l'adversaire. Je pense qu'on a trop compris. On a essayé d'attendre un peu l'adversaire. Mais là où on devait attaquer, on n'a pas pu attaquer. Je pense que c'est des choses à corriger. On a eu la chance de marquer. On n'a pas pu concrétiser cette occasion. On va travailler pour préparer vraiment sereinement le match à venir. Et en début de compétition, je pense que le match nul, c'est bon à prendre.
Le capitaine des étalons locaux, Baba Youré Sawadogo.
Et la Côte d'Ivoire en quête de rachat.
Battu d'entrée de jeu par la Namibie 1-0, les éléphants locaux devront montrer un autre visage demain face à la Zambie. Les explications à Casablanca d'Amine Birouk pour VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire est déjà dos au mur dans ce CHAN 2017. 4 jours après leur défaite à Marrakech devant la Namibie, les éléphants sont dans l'obligation de se rassurer sous peine de quitter la compétition. 1 an seulement après le camouflet subi lors de la CAN 2017 et quelques mois seulement après leur élimination du Mondial 2018. Pour atteindre cet objectif, l'entraîneur Ibrahima Camara compte sur un changement d'état d'esprit devant des Zambiens qui se sont distingués face à l'Ouganda sur le score de 3-1 dimanche dernier. Des Zambiens qui pourraient faire d'une pierre deux coups, se qualifier pour les quarts de finale et éviter une revanche de la Côte d'Ivoire 6 ans après la fameuse finale de la CAN 2012. Depuis Casablanca au Maroc, Amine Birouk pour VO Afrique.
Cyclisme tropical à Missa Bongo.
Au Gabon, la troisième étape entre Fungamou et Lambaréné, longue de 114 km, a été remportée par l'Italien Rinaldo Nonsantini. L'Australien Brenton Jones, vainqueur hier de la deuxième étape, prend le maillot jaune pour une toute petite seconde devant l'Allemand Lucas Carstensen. On s'en souvient, il avait gagné la première étape.
Et on termine avec du championnat de basket nord-américain.
Et oui, la NBA, la Nouvelle-Orléans qui est allée battre Boston à domicile. On rappelle que Boston est leader de la conférence Est. Une victoire en prolongation 116 à 113. Dans les autres matchs de la soirée, Orlando Magic vainqueur en Floride contre les Minnesota Timberwolves, la victoire 108 à 102. Et puis Portland qui domine Phoenix 118 à 111. Enfin, Denver qui domine Dallas 105 à 102.
Merci Nicolas.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, place au dossier du jour. Au Togo, des marches sont organisées régulièrement pour exiger le retour à la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le président Faure Gnassingbé a promis l'ouverture d'un dialogue qui se fait toujours attendre. Eddie Senghor a recueilli l'avis de la directrice exécutive de la Ligue civique togolaise, Farida Bamba Naburema, de passage dans nos studios à Washington DC.
Ces manifestations ont joué un grand rôle, tout d'abord à démystifier la situation politique au Togo, parce que pendant longtemps, Faure Gnassingbé a essayé de vendre un Togo qui n'existe pas, c'est-à-dire un Togo où tout le monde l'apprécie, où tout le monde a accepté son règne, un Togo démocratique, un Togo où règne la paix.
À ces manifestations, le pouvoir ou le gouvernement opposent parfois des contre-manifestations pourtant.
Cela a permis au monde de voir quelle est leur capacité d'organisation et quel est le soutien qu'ils ont. Parce que nous avons organisé des manifestations et nous avons obtenu des centaines de milliers de gens dans la rue. Mais eux, à leurs manifestations, ils n'ont pas été en mesure de drainer ne serait-ce que le dixième de la foule que l'opposition a réussi à drainer.
Il n'y a pas que des contre-manifestations, il y a aussi l'usage de la force des unités de sécurité qui interviennent.
Il y a aussi l'usage de la force de ce qu'on appelle les miliciens. Le gouvernement a armé des civils avec des machettes, des gourdins, même des kalachnikovs. Et ces gens-là sont rentrés dans les quartiers pour agresser les manifestants, rentrer jusque dans les maisons des gens pour les agresser. Et le gouvernement a appelé ces miliciens des groupes d'autodéfense. C'est inadmissible.
Le président Faure Gnassingbé a un appel à un dialogue. Qu'est-ce que vous en dites?
Nous n'avons pas confiance en cette procédure parce que de 1990 à aujourd'hui, il y a eu un total de 22 dialogues au Togo. Et jamais le régime au pouvoir n'a respecté ses engagements. Si cette crise a eu lieu aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont refusé de respecter les engagements qu'ils ont pris durant l'accord politique global de 2006 à Ouagadougou. Alors, on ne va pas faire des dialogues pour pouvoir trouver des solutions à d'autres dialogues qu'on a fait par le passé.
Le président Faure Gnassingbé semble accepter une révision constitutionnelle, mais qui pourrait avoir plutôt des faits sur l'avenir et non sur le passé.
Ça, c'est une excuse. C'est-à-dire que nous avons un gouvernement qui a toujours créé une constitution sur mesure. Donc, quand ça les arrange, ils retirent des clauses de la constitution. Quand ça ne les arrange pas, ils en rajoutent d'autres. Et les Togolais sont fatigués de cela. Nous avions voté à plus de 99% en 1992 durant un référendum pour une constitution qui limite clairement les mandats et qui dit qu'en aucun cas, nul ne peut servir plus de 2 mandats. Donc, si nous avons, en tant que peuple, durant une conférence nationale souveraine, choisi une constitution, le fait qu'un régime militaire vienne changer cette constitution et revienne nous imposer sa nouvelle version n'est pas une chose que nous, les Togolais, sommes prêts à accepter.
Farida Bamba Naburema, directrice exécutive de la Ligue civique togolaise.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, Zoom sur le championnat d'Afrique des nations de football. Plus connu comme le CHAN, la compétition qui se dispute au Maroc du 13 janvier au 4 février met en vedette des joueurs n'évoluant que dans des clubs africains. Quelle équipe a le plus de chances de décrocher le trophée 2018? Mais au fait, pourquoi le CHAN a été créé en 2009 par la Confédération africaine de football? Parvient-il à promouvoir et développer le foot africain? Les championnats locaux en tirent-ils profit? Et est-il temps de lancer un CHAN féminin? Washington Forum, ce jeudi à 19h08.
Au Congo-Brazzaville, après l'arrestation du général Norbert Dabira, un autre général a été écarté de la tête de la garde républicaine avant d'être interpellé par les services de police. Cette situation plombe la vie dans les rangs militaires, nous dit notre correspondant sur place, Nguela Ngosu.
Depuis l'arrestation le 10 janvier du général Dabira, la tension est palpable dans les rangs des forces armées congolaises. Les plus folles rumeurs, distillées dans les réseaux sociaux, font état d'une liste d'officiers qui rejoindront bientôt ce général proche de Sassou Nguesso dans les cellules de la DGST. D'après les informations qui courent la rue, car jusque-là aucune déclaration officielle, le général Dabira aurait fomenté un coup d'état tentant d'abattre en plein vol l'avion présidentiel. Les organisations des droits de l'homme appellent les autorités à clarifier cette situation. Trésor Ndila Kende est le directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
C'est pas parce qu'on est une autorité ou un officier supérieur qu'on est à l'abri d'une interpellation. Mais il y a encore le flou sur sa situation. Vous savez bien que le Congo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et donc, il est clairement établi que toute personne interpellée doit être notifiée très rapidement des motifs qui lui sont reprochés.
La version du coup d'État passe très peu au niveau d'anciens militaires qui pensent plutôt à une histoire boutiquée de toutes pièces. Jean Bosco Pankima, un ancien prisonnier dans l'affaire du 4 mars 2012, n'y croit pas.
Étant prisonnier pour l'affaire du 4 mars, le général Dabira a été l'un des premiers à passer au procès et nous dédouaner en tant qu'inspecteur de l'armée. Par la suite, il était parti à Paris déclencher l'affaire pour laquelle ils étaient jugés avec Nsourou. D'après mes analyses, c'est tout simplement parce que les gens veulent l'enfermer pour étouffer cette affaire des disparus du Beach. Et comme ici, on invente les motifs, on en a trouvé un motif qu'on a inventé.
Après l'arrestation du général Dabira, un autre général, Nyangambwala Ngatse, a été débarqué du commandement de la garde républicaine où il a servi pendant 5 ans. Une convocation des services de la police lui a été aussitôt servie. Pour Luamba Moké, président de l'Association des droits de l'homme et l'univers carcéral, la justice doit désormais se saisir de ce dossier.
Parce qu'il y a d'abord la présomption d'innocence. Mais cette présomption d'innocence est vérifiable. Ce n'est pas la DGST. La DGST n'est pas un appareil judiciaire. La DGST, pour nous, c'est une police politique.
La sérénité règne à Brazzaville, bien que chaque soir, les militaires continuent de poser les barrières et de fouiller les véhicules. Nguela Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Tchad, 105 prisonniers de la maison d'arrêt de N'Djamena, considérés comme des couches vulnérables, sont libres de leur mouvement. La cérémonie de remise en liberté a eu lieu ce mercredi au sein de la prison. André Kodmajingar était sur place pour VOA Afrique.
Cette remise en liberté fait suite aux instructions données par le président Déby lors de sa visite inopinée dans ce lieu d'incarcération le 18 novembre dernier, visite à l'issue de laquelle il a déploré les conditions de détention de ses concitoyens en conflit avec la loi, considérés comme des personnes vulnérables. Ainsi, 55 mineurs, 13 femmes allaitantes et 33 majeurs bénéficient de cette grâce. Pour le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Djemel Arabi, cette libération n'exclut pas la réparation civile.
Cette grâce doit être considérée comme un pardon. Cependant, ce pardon ne préjudicie pas aux droits des tiers. Vous serez tenu de réparer les préjudices que vous avez causés aux partis civils.
Le procureur de la République précise quant à lui que cette grâce présidentielle ne viole pas les règles juridiques, mais plutôt une décision purement sociale. Mohamed Saleh Youssouf.
Ce n'est pas par gaieté de cœur que ces gens ont été mis en prison. Ils ont enfreint à la loi. Ayant enfreint à la loi, ils font l'objet de procédures. Le chef de l'État l'a instruit que ces personnes soient libérées. En disant que ces personnes soient libérées, il ne nous a pas demandé de violer la loi. Cela veut dire que ce n'est pas des décisions politiques, mais en tant que le président du Conseil suprême de la magistrature, nous a demandé de prendre nos responsabilités. Nous avons pu prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces gens soient libérés conformément à la procédure en vigueur. Donc pour moi, c'est une très grande fierté de voir ces gens-là recouvrir leur liberté. La liberté, elle est sacrée. J'entends prendre les dispositions nécessaires pour que des mineurs ne remplacent pas les mineurs facilement.
Madame Dandé Gano, employée d'une banque de la place, arrêtée pendant que son bébé avait 4 mois et demi, bénéficie également de cette remise en liberté. Aujourd'hui, sa fille a environ 1 an et 4 mois. Elle se réjouit et déclare qu'elle est prête à pardonner.
Je me suis retrouvée ici par rapport au manquant de caisse.
Vous reconnaissez les trucs ?
À moitié. Il y en a qui sont dus à ma responsabilité. La grande partie n'est pas due à ma responsabilité. J'ai fait jour pour jour 9 mois et 3 jours aujourd'hui. Je remercie d'abord le chef de l'État qui a pris l'initiative. Je remercie aussi la CICR qui s'est occupé de nos enfants de plus près, qu'ils soient malades, que ce soit la nuit, très tard. Puisque moi j'ai été pardonné, je ne vois pas pourquoi je ne dois pas pardonner.
Ces mineurs libérés seront soutenus pour leur insertion sociale grâce à l'engagement pris par les partenaires du Tchad, rassure le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Dine Arabi. Car pour lui, l'État ne veut plus les voir repartir en prison. André Kodmadingar Ndjamena pour VO Afrique.
VO Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Consternation à Bangui en Centrafrique après le non-lieu déclaré par la justice française dans l'affaire de viol sur mineur. Une dizaine de soldats français de l'opération Sangaris avaient été accusés de viol sur des enfants dans le site de déplacés de l'aéroport de Bangui. La décision de justice a surpris dans la capitale centrafricaine, Freeman Sipila.
À l'annonce de cette nouvelle, la consternation a vite gagné la capitale centrafricaine. Dans les rues, cette décision est mal accueillie, même si certains gardent encore un brin d'espoir, comme ils le confient au micro de VOA Afrique.
Comment est-ce qu'il n'y avait pas de preuves? Il y a des preuves. S'il n'y avait pas de preuves, les gens ne pouvaient pas dire de n'importe quoi.
Quoi que des preuves ne manquent pas. Donc, il va falloir que la justice fasse son travail et que le gouvernement se mette. Je pense que ce n'est pas encore tard. C'est une justice, on peut à un moment donné demander à ce qu'on revienne sur cette décision. Pour que nos parents violés puissent être revus dans leur dos.
Ces victimes ont droit à la réparation. Mais pour le moment, s'ils ne sont pas reconnus comme coupables, donc quitte à ces organisations internationales de voir comment on peut donner réparation à ces victimes.
Selon la justice française, les incohérences matérielles et la variation des témoignages n'ont pas permis d'établir des faits circonstanciés à l'encontre des militaires suspectés. Argument qui fait réagir Francis Mungombi, président de la jeunesse centrale.
Je me questionne, comme tous les Centrafricains, à quelle fin les victimes ou les supposées, les présumées victimes ont-ils annoncé au monde entier qu'ils ont subi de tels méfaits? À quelle fin? Donc je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Aussi petite que soit cette fumée, nous voulons voir d'où elle vient. Ne fût-ce que ça soit un acte de violence, tentative, que sais-je encore, mais nous voulons savoir. Et moi je dis encore que la précipitation du verdict nous laisse poser des questions.
Pour le moment, les organisations de défense des droits de l'homme et celles des victimes de la crise se réservent encore de commenter cette décision. Cependant, Maître Denis Modomadé, avocat au barreau de Centrafrique, s'est dit surpris. Il s'interroge sur le suivi du dossier par les autorités centrafricaines.
Je ne sais pas comment le dossier a été suivi, mais j'ai quand même été surpris de la décision de non-lieu par rapport aux éléments de l'opération Sangaris en Centrafrique qui avait été mise en cause dans cette affaire. Je suis quand même un peu désolé par rapport à cela et j'ai cru entendre que les ONG qui étaient en charge de ce dossier ont fait appel de la décision. C'est une très bonne chose, ça voudrait dire que tout n'est pas encore fini et qu'on pourrait rattraper cela.
Une dizaine de soldats de l'opération française Sangaris déployés fin 2013 en Centrafrique étaient accusés de viol sur mineurs. L'affaire concernait des fait qui se serait déroulé entre décembre 2013 et juin 2014. Ces enfants âgés de 9 à 13 ans ont dénoncé des abus sexuels commis par ces militaires dans le camp de déplacés de l'aéroport Bangui-Poco en échange de nourriture ou de l'eau. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Georges Léonard Sagno, à la console Vasco, à la présentation Ekiabadou. Merci à vous pour votre fidélité, merci à l'ensemble de la rédaction pour sa contribution. Ainsi va le monde aujourd'hui, on reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Bonne suite des programmes.